Donc bienvenue à l'émission Kixa. Vous êtes sur Radio Galère 88.4 et aujourd'hui je reçois le groupe hors champ, en tout cas une partie du groupe, puisque j'ai dans les studios Théo Santinacci qui est le batteur du groupe, Benoît Franciso, merci la dyslexie, qui est au saxophone, ténor et soprano, et Romain Redon, qui est à la guitare et à la flûte. Comment ça va ?
Salut, ouais, ça va.
Bien.
Donc, hors champ, c'est un groupe de jazz, mais pas que. Comment est-ce que vous définiriez votre musique ?
Plutôt jazz-rock, en fait. On essaie de mélanger le jazz et le rock.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment est-ce que c'est né, hors champ ?
Alors déjà, c'est avec Romain, donc on s'est connus il y a assez longtemps maintenant. On était adolescents, quoi. C'était la période lycée, et on s'est rencontrés, on avait un groupe de rock progressif, très 70s, quoi. Depuis là, on s'est pas quitté, on a eu plusieurs, différents projets depuis et tout, quoi. Et donc là, le projet est né il y a 2 ans à peu près. Et comme on te disait tout à l'heure, on a rencontré Benoît par le biais d'une jam session qu'on organise à Toulon, ainsi que le claviériste aussi.
Super rendez-vous, en fait, c'est tous les mercredis à Toulon au Café Pop.
Ouais, s'amuse bien.
Alors aujourd'hui, on va faire une session d'écoute, en tout cas une valorisation de votre album que vous avez sorti du coup il n'y a pas longtemps. Quand est-ce qu'il est sorti cet album ?
Alors, on va le sortir justement, donc tenez-vous au courant. Vous pouvez aller voir sur les réseaux et tout ça. Donc, normalement, fin octobre, début novembre, on a la pochette qui est bientôt finie.
Et qui s'appelle du coup Dérive Urbaine.
On a changé là, on a reviré de nom aussi.
Pardon.
Bon, non, t'inquiète, ce sera Comète Indigo.
Comète Indigo, ouais. Donc, comme un des titres de l'album.
Ça faisait plus de sens.
Je voulais vous demander aussi pourquoi vous avez appelé votre groupe Hors-Champ, puisque pour moi, Hors-Champ, c'est vraiment un terme qui est très cinéma. Et je remarque de manière générale dans la musique et dans les musiciens de notre génération que il y a de plus en plus de liens entre le cinéma et la musique, et donc et notamment on pourrait faire une émission entière sur le jazz dans le cinéma.
Oui.
Donc voilà pourquoi hors champ.
En fait, hors champ ça part effectivement aussi du cinéma, de cette idée de narration, et les compos sont assez narratives, elles ont quand même pour but de, quand on les écoute, qu'il y ait une histoire qui se raconte, une trame, et aussi un paysage, un cadre qui soit posé. Par exemple, dans Nébuleux, on est sur le thème de l'espace, et donc on surfe un peu sur la nébuleuse en écoutant le morceau, et voilà, il y a quelque chose qui nous guide, un espèce de fil rouge tout au long du morceau qui raconte une histoire. Tout en restant dans l'abstraction de la musique, hein,
Et puisque vous allez le découvrir, il n'y a pas de chant dans votre formation, donc c'est toujours hyper intéressant aussi de discuter de narratif, des titres aussi. Je propose qu'on commence par écouter un morceau du coup de l'album. Par quoi vous voulez commencer ?
Nébuleux.
Nébuleuse, vous êtes sûr ? Vous êtes sur Radio Galère.
Jamais vraiment sûr.
Vous écoutez Hors Champ. Alors, je reprends le micro. Je pense qu'il y a un petit problème technique. On essaye peut-être un autre morceau pour voir si j'espère que c'est que sur celui-là.
Ouais, Comète Indigo, très bien.
Comète Indigo, allez, c'est parti, on va voir.
Le tube.
Much better.
Yes. Thank you.
De retour dans les studios de Radio Galère à l'émission Kixa et on est toujours avec Orchan dont on vient d'entendre Comet Indigo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce son? Et tu me disais que vous aviez choisi les noms du groupe et des chansons en fonction du narratif et de l'histoire et qu'on va finir par écouter Nébuleuse qui est sur le cosmos, mais là on a quand même Comet Indigo qui sera le titre de l'album. Alors est-ce qu'on peut en discuter un peu?
Ben en fait, Comet Indigo, là, vraiment, quand on a la reprise du thème à la fin, on voit la comète arriver, quoi. Elle nous arrive dans la gueule, vraiment. Et c'était un peu ça qu'on cherchait, quoi, d'avoir une comète un peu hors champ, au loin, qui se rapproche de nous en mode apocalyptique, tu vois. Et donc voilà, toujours
d'énergie dans le morceau, quoi. C'est vrai que...
C'est ça. Parce que petit à petit, on le transforme en rock, petit à petit, ça devient de plus en plus dur, ça devient un peu plus musclé. Et voilà, c'est un peu l'apocalypse qui arrive, quoi.
On commence un petit peu sur ce morceau à comprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les influences de rock et tout. Je crois quand même que quand j'avais écouté le morceau où j'avais le plus entendu vraiment cette inspiration rock, c'était sur JTM, il me semble.
Oui.
Et ça m'avait marqué parce que sur un titre qui s'appelle Je t'aime, je m'attendais pas forcément à avoir un truc hyper rock'n'roll, mais c'est très très chouette. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous composez, parce que ça c'est un peu obscur pour nous les gueux qui ne faisons pas de musique. On a du mal un peu à comprendre comment est-ce que ça se compose un morceau, quoi.
Alors la composition, c'est en fait on l'a fait un petit peu ensemble, mais d'abord c'est quelqu'un qui ramène une composition personnelle. La plupart c'est Romain qui les a écrites. Il y en a une super aussi de Fabrice, le claviériste. Donc, il ramène le matériel, il le met sur la table et puis on le déballe ensemble. On fait des confettis avec.
Ouais. Il y a une autre question que je voulais vous poser. Moi, j'ai grandi dans le jazz en tant que musicienne, du coup, vraiment à subir les obsessions de mon père pour le jazz. Donc, de mes 6 ans à 25 ans, tous les étés, j'ai passé à Jazz in Marciac. Et en fait, et je trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup de fusion, en fait, et c'est quelque chose qui est rigolo parce que, notamment dans la façon dont vous communiquez sur votre musique, vous parlez de réinventer ou de s'écarter du jazz traditionnel. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas dans notre génération, je connais pas de musiciens de jazz qui fassent du jazz traditionnel. Et en plus de ça, le jazz fusion, c'est aussi un genre, un sous-genre du jazz, comme on pourrait parler de bebop ou de swing. Donc, est-ce que vous trouvez que pour moi, le jazz d'aujourd'hui, c'est forcément du jazz fusion? Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça, quoi?
Bah, qu'il y a eu une ouverture, et je pense qu'il y a surtout cette liberté d'improvisation qu'il y a dans le jazz, qui a été gardée en fer de lance, même aujourd'hui, mais avec, je sais pas, les jeunes musiciens de notre génération, ou même encore plus jeunes, on a quand même ce truc-là de vouloir explorer le hip-hop, le groove, une autre manière d'accompagner, en fait, des accords et une mélodie qui sont chantantes, qui sont plus jazz peut-être, notamment dans l'harmonie. Par exemple, c'est là où on va chercher beaucoup le côté jazz. Mais le rythme, on a oublié le shabada classique et on s'est dit en fait, pourquoi pas mettre du binaire, pourquoi pas mettre du trinaire, pourquoi pas aller mettre de la world, de l'afro, et pourquoi pas du rock.
Ouais. Et puis ce qui marche au niveau du jazz, pour les jeunes, c'est essentiellement une fusion avec la musique hip-hop ou avec la musique électronique. Mais ensuite, la plupart des musiciens de jazz jouent aussi du tradi.
Oui.
Alors, pour faire le métier, quand on n'a pas un groupe, une formation de création qui a décollé, on fait le métier en faisant des morceaux qui peuvent plaire à ceux qui ont de l'argent. Nous, dans le Sud, c'est surtout des gens âgés, quoi, peinards. Donc, on leur fait le petit jazz des familles, ouais.
Et c'est rigolo d'ailleurs, hein, parce que quand tu vois l'histoire du jazz, c'était pas du tout attendu que ça finisse dans des pantoufles, quoi. C'était, j'adore regarder des archives de l'INA, donc les archives d'audiovisuel des années 60, où tu vois les parents qui parlent du jazz et en fait ils sont là en mode non mais c'est une musique de racaille, jamais j'autorise ma fille à réviser en écoutant du jazz et tout ça. Il y a vraiment un truc hyper subversif. Et aujourd'hui je me souviens il y a quelques années un copain contrebassiste qui galérait à trouver des gigs parce que notamment la fête de la musique, parce qu'on disait oui on veut que ça danse. Et pour les gens qui écoutent du jazz, on ne comprend pas cette idée, quoi. Enfin, il peut y avoir du jazz très mélodieux et très doux, comme du jazz qui danse. Et d'ailleurs, hier, je suis tombée sur une vidéo d'un musicien qui râlait parce qu'il paraît qu'en France, on applaudit sur le 1 et le 3. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas bien d'applaudir sur le 1 et le 3 ?
Bah, sur scène, c'est vrai que c'est rigolo quand t'as tout un public et que tu balances un swing, t'as le 1 et le 3, ouais, c'est particulier, quoi. C'est après, bon, est-ce que c'est pas rigolo de jouer avec aussi ? Bon. S'en fout pas un peu, quelque part. Moi,
à Jazz in Marciac, une année, j'avais des potes musiciens qui se marraient parce que je sais plus quel artiste. En fait, ils avaient abandonné de nous apprendre à taper sur le 2 et le 4. Et du coup, en fait, les musiciens, ils avaient calé une mesure à 5 temps pour pouvoir recaler sans qu'on s'en rende compte et nous obliger sur le 2 et le 4. Donc ça faisait marrer les copains. Mais ok, et ben continuons à écouter votre album. J'ai tellement l'habitude d'inviter des rappeurs que j'allais dire EP. Ceci dit, dans le jazz aussi, moi, j'entends des gens qui disent EP. Mais...
Ouais, c'est un format qui est quand même apprécié, parce que bon, ça coûte des sous d'aller au studio quand même. C'est difficile des fois de trouver des financements. Et en fait, le format EP, il te permet dans un court temps de caler au moins 4 morceaux. Tu vois.
Et d'ailleurs, vous l'avez enregistré dans quel studio, dans quelles conditions ?
Alors nous, on était au studio Recall, Dat Sound Studio, chez Philippe Gaillot, qui est un studio à Pompignan. C'est vers Montpellier, c'est ça.
Ça sent plus le sud-ouest que le sud-est,
c'est
quand même.
C'est un gars de fou qui avait un espèce de camion qui allait enregistrer Herbie Hancock, Chick Corea et tout en live, quoi, et qui fait vraiment de la musique hyper quali et qui a un studio de fou furieux. Il y a de beaux passages. Il a fait Césaria Evora, wow. Noir Désir, Birelli Lagraine, oui, et Sylvain Luc aussi. C'est vraiment un gars très touchant, en or, et qui nous a beaucoup appris dans cette session.
D'ailleurs, je pense au dossier de presse que vous m'avez envoyé pour préparer l'émission. J'ai vu le nom de Magma, Chick Corea, Herbie Hancock, évidemment. C'est à vous, chacun de tous les trois, c'est quoi vos artistes préférés que vous écoutez en boucle enfin, Benoît, est-ce que tu as des artistes
Moi, c'est toujours une question difficile, parce que c'est vrai que d'un jour à l'autre, je change et... Et là, si on regarde, par exemple, sur Spotify, mes petites likées, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Là, les derniers trucs, c'était de la salsa. Avant ça, c'était le trio Oregon, le groupe...
Ah oui, de Ralph Toner, jazz norvégien. Incroyable.
Ouais, il y a des trucs de hip-hop, d'électro, enfin, voilà. Alain Jean-Marie aussi. Bon, ça, c'est de la Big In. Enfin, bref, c'est très éclectique. Et puis, je reste pas figé sur une écoute, quoi.
Ouais. Et vous, du coup ?
Moi, c'est plus... je vais alterner entre du 70s et la musique de maintenant, tout en passant par des grands noms du jazz, quoi, les maîtres. Quoi. J'aime
Quand
les écouter souvent.
Quand tu dis du 70s, c'est pas forcément que le jazz.
Non,
ça
va être
le rock aussi.
Ouais, ça va être en gros le jazz rock, en fait, qui existait déjà dans les 70s et qui a été un peu mis de côté pour laisser la place au rock progressif. Entre guillemets, ça fait un peu tout seul, mais des groupes comme Soft Machine, Gong, Yes, Genesis aussi, qui pouvaient faire ce genre de choses. C'est moins ma cam, mais voilà. Et du coup, c'est un puits, je trouve, d'audace, ces années-là. Et c'est certes pas parfait dans la réalisation, c'est pas très léché, mais par contre, il y a des idées à la seconde, quoi. C'est trop bien.
Mais d'ailleurs, je trouve qu'on en revient. Hein. Là, on a bien, même particulièrement dans le cinéma, mais c'est dans la musique aussi, on a bien raclé, je trouve, les musiques très lissées. Là, on commence à avoir peur parce qu'il y a les premiers acteurs en IA qui commencent à sortir. Mmh. Et moi, je suis ravie parce que je pense que les gens vont s'enlacer et vont retrouver le goût des gueules cassées, mais aussi, je pense à un ami qui était ingénieur du son. Et qui, lui, quand il fait un studio, il prend une maison et il choisit le lieu. Et en fait, au lieu d'essayer à tout prix d'enlever le moindre son parasite, il choisit la campagne en fonction des bruits pour que justement il y ait des oiseaux, il y ait un son. Et il travaille le son en fait de la musique non pas dans un truc très lisse, mais au contraire dans un truc très organique. Et je trouve que c'est très, très, très chouette aussi. Donc, je pense que c'est, ça fait aussi le charme des 70s là-dessus, le côté, le son un peu fait bizarre. Et toi, du coup, tes albums que tu saignes ?
Moi, c'est un peu comme Benoît, ça dépend vraiment des moods, des moments, d'un jour à l'autre. Mais dernièrement, c'est vrai que ce qui revient très souvent, c'est Chick Corea, Magma. Donc on a aussi pas mal en commun avec, avec Romain. Des groupes comme Frank Zappa, que j'ai vraiment écouté pendant très longtemps, encore maintenant. Et j'écoute aussi vraiment pas mal de musique électronique. Pas mal de trucs assez modernes aussi. Que ce soit les Américains, moi j'aime pas mal aussi ce qui se fait aux États-Unis, quoi. Tous les mononéons, tout ça.
Qu'est-ce que c'est les mononéons ?
Enfin, mononéon, c'est un bassiste assez...
Ok, pardon. Tu me parlais en off du Moog. Du coup, je me dis ouais. Ça doit être un truc de machine, de musicien. Pas du tout, c'est un artiste.
Donc ça, c'est plus qui s'inscrit quand même dans la scène donc, jazz. C'est quand même des tueurs, tous ces gars-là. Mais ils ont quand même le côté très groove aussi. Ils font presque des tubes, quoi, mais avec cette culture jazz. Donc j'aime beaucoup tout ça, quoi.
Est-ce qu'on se réécouterait pas ? Alors, est-ce qu'on n'essayerait pas de se réécouter Nébuleuse, du coup, qu'on n'a pas réussi à lancer tout à l'heure ? Donc, on va voir si j'ai réussi à regagner de l'autorité sur mon ordi. On va tester ça tout de suite. Voilà. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. Nous sommes avec... Vous écoutez Hors Champ, Nébuleuse. Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et en studio, nous sommes toujours avec Orchan. Est-ce qu'on la sent pas bien là, la guitare 70s à fond? C'est vraiment là pour le coup, je trouve que j'avais l'impression d'être avec les Pink Floyd ou tu vois, d'avoir cette guitare là qui était. Et du coup, c'est la question que je voulais te poser d'ailleurs. C'est, j'ai l'impression que c'est même au niveau de l'instrument que c'est pas une guitare jazz. J'ai vraiment l'impression que c'est une guitare rock. Après, je m'y connais pas donc je sais
mais
pas.
Oui,
trop,
oui, mais oui, c'est vraiment l'idée, c'était d'avoir une guitare rock sur du jazz quoi, vraiment.
C'est rigolo parce que à la fois il y a toute la première partie du morceau qui fait hyper rock, notamment par la guitare. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les deux dernières minutes, il y a vraiment ce truc du jazz qui est très coquin. C'est-à-dire que vraiment, il y a tout un truc dans le jazz, je trouve, de notamment genre dans les deux dernières minutes, il y a plein de moments où on a l'impression que le morceau va se terminer. Et ben non. Et ça reprend. Et maintenant, et ça, je trouve que c'est un jeu qu'il y a beaucoup dans le jazz avec le public. On dirait les musiciens, ils aiment bien faire des blagues avec l'attention du spectateur. Et je trouve que cette nébuleuse, elle est vraiment autant rock que jazz. Et c'est très harmonieux en même temps. Donc bravo déjà. Et est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a un moment où le saxophone et la guitare jouent la même ligne mélodique en même temps?
Oui.
Et bah, c'est très très fort parce que je trouve que c'est hyper, ça crée comme un nouvel instrument et c'est une très 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 chouette.
Trop cool, content d'entendre ça parce que c'était vraiment l'idée au début avec Benoît, on était en mode vas-y la sature avec le sax, ça donne tellement un truc, tu vois.
De fusionner les deux sons et ça demande toute une recherche à la fois sur le son, les effets de guitare et puis de nous, de bien nous entendre pour être...
Le placement et tout, on a chié, mais c'était bien.
Et ouais, parce que genre au début, au bout d'un moment, le sax arrive et donc là c'était très clair. Et puis ce que je trouvais hyper fortiche, c'est que au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui m'invente une vie? Parce qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment la sensation d'avoir les deux morceaux, puis d'un coup, ça devient un son en soi en fait. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être mes troubles de l'attention qui ont inventé un truc et moi qui comprends mal, mais ok, je suis contente.
C'est gagné,
c'est gagné. Alors là, en studio, nous avons donc Théo Santinacci qui est à la batterie, Romain Redon à la guitare et à la flûte, et Benoît Francisot qui est au saxophone ténor et soprano. Mais il nous en manque deux. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'Antoine Carletto qui est à la basse et qui, de toute manière, toute la section rythmique, mais la basse, elle est pas timide dans votre projet, et aussi de Fabrice Cormao, le pianiste, qui font un très très joli boulot.
Alors, petite précision sur cet album, malheureusement Carletto n'était pas disponible, donc c'est Romain Berthet qui merci à lui de nous avoir fait vraiment cette dépanne de fou et qui nous a régalé tout le long de l'album. Donc c'était Romain Berthet que vous avez entendu à la basse sur ces morceaux. On peut peut-être écouter Princess tout à l'heure, il y aura Antoine Carletto dessus.
Ah ok, très
comme
bien.
Ça on pourra...
Donc sous-entendu c'est aussi, donc rappelle-moi le nom du bassiste de l'album,
Romain Berthet.
Donc c'est Romain Berthet aussi qui compose la partie...
Oui, sa partie basse est libre, il y avait quand même quelques obligés qui nous réunissent tous, mais ça reste quand même quelqu'un qui a mis beaucoup à la patte aussi à ce moment-là.
Contrairement à Princesse qui du coup est plutôt de la composition de
Antoine. Fabrice, du coup du claviériste.
Ah, ok, d'accord, ok.
On y est.
Okay, excuse-moi. C'est
mon éparpillement. Donc ouais, Fabrice, c'est un gars qu'on a rencontré à la jam aussi du Café Pop. Et en fait, il est venu un soir, il a dit « Ah, oh, trop cool les gars, je peux ramener un clavier ?»« Ouais, vas-y !» Et puis, je me souviens, on a joué Dolphin Dance de Herbie Hancock. Et on s'est trop bien entendu. Et même dans le son, dans le jeu qu'il avait, il y avait vraiment cette vibe entre Chic, Herbie, et qu'on adorait avec Théo. Et on s'est dit, vas-y, viens, on essaie de faire un truc ensemble, on essaie de partir un peu sur des standards qu'on remanie pour trouver des idées, de compos, etc. Et ça s'est fait comme ça avec lui, et ouais, ça a été une belle rencontre. Et voilà, et lui, il a beaucoup mis aussi, du coup, et par sa composition, et par ce qu'il proposait au clavier, bah, de sa couleur, de son placement, de son jeu, quoi. Donc il a quand même beaucoup de liberté, en fait, dans la composition. Quelques objets, mais bon.
Assez confiant parce que justement ils avaient quand même cette même culture aussi en commun qu'on a ensemble. On écoutait un peu les mêmes artistes, tout ça, donc on avait vraiment full confiance en Romain justement à la basse et en Fabrice quoi.
Et d'ailleurs en off, vous m'expliquez que Fabrice n'est pas que musicien.
Non. Oui.
Et je trouvais ça assez fou. Est-ce qu'on peut dire quel est son autre métier ?
Bah, il est médecin, du coup. Et du coup, voilà, à côté, c'est un grand fou de musique. Il a fait une école aussi sur Paris. Et ouais, ouais, c'est un gars, il adore le piano. Et,
mais je trouve ça dingue.
Presque autant que la planche à voile.
Et aussi, oui.
Je trouve ça dingue d'avoir un métier aussi prenant et d'avoir une qualité musicale. Tu m'aurais dit, oui, le gars, il n'est que pianiste depuis ses 15 ans et c'est son métier en 35 heures. Enfin, 35 heures, on sait très bien que les musiciens, vous travaillez plutôt 90 heures semaine. Mais, mais c'est, je trouve ça dingue d'avoir un tel niveau musical alors que... T'as aussi un autre métier à côté qui te prend autant de temps, quoi.
Moi aussi, je trouve que c'est une personne incroyable. C'est assez fou, quoi, qu'il arrive à allier tout ça. Et ça nous a toujours vachement surpris et agréablement, quoi.
Tu m'étonnes. Pourquoi est-ce que je n'ai plus ma playlist ici? Je crois que cet ordi est contre moi. Hein. C'est... Donc, Nébuleuse, j'ai trouvé ça aussi intéressant par rapport à la section rythmique, qu'on est dans une mélodie qui est très... assez douce en fait, très on voyage et c'est trop chouette. Et à la fois, il se passe plein de choses à la batterie. Enfin, la batterie, elle est hyper nerveuse et je trouve que c'est un décalage qui est hyper intéressant. Est-ce que du coup, Théo, tu peux nous parler un petit peu de ça?
Ouais, alors c'est vrai que sur le thème au début où la mélodie est quand même plus calme, donc j'ai un jeu presque un peu afro en fait, on va dire. Presque, enfin pas afro mais plutôt latin, en gardant quand même un swing à la ride. Et du moment que les solos commencent, donc ça part un peu classique au début, on va dire. C'est un shabada classique mais qui évolue rapidement vers le rock. Et c'est toujours pareil parce que j'ai ces influences là aussi de Zappa et de plein de groupes jazz rock qui étaient vraiment... plus que rock progressif ou rock psychédélique, c'est ça allier vraiment les deux.
Un peu un ovni quand même. tu en parles dans ta phrase comme si il était genre référent d'un style très cadré. Zappa.
Ouais, il a tout fait. C'est quelqu'un quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un.
Ouais, j'adore en fait ce contraste aussi en fait, de manière générale, hein, dans la musique, dans tout d'ailleurs. Entre voilà, cette douceur qu'il y a dans le thème et après où ça s'énerve. Et il y a quelques morceaux où ça se ressent aussi sur l'album. Quoi.
Alors il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. Donc je propose qu'on écoute peut-être un dernier titre. Mmh. Tu parlais de Princesse.
Oui.
Eh bien c'est parti pour Princesse. C'est sur Radio Galère 88.4. Vous écoutez Princesse du groupe Orchamps. Thank you. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. Vous venez d'entendre Princesse du groupe Orchant qui est avec nous en studio. C'était quoi qu'on vient d'écouter ?
C'était Princesse, une compo de Fabrice, le claviériste. Et du coup, on l'a enregistré à Bad Taste. C'est un shop à Toulon. Et on sort la live session Bad Taste sur les réseaux. Si vous voulez venir écouter, jeter un œil.
Merci beaucoup d'avoir participé à Kixa. On peut vous retrouver du coup sur notamment Instagram Orchant Musique, donc HORS-CHAMP.MUSIC. Voilà, je suppose sur d'autres réseaux peut-être.
Oui, sur Facebook, YouTube, voilà, ces trois réseaux.
Et la sortie de l'album, on vous stocke à quelle période pour savoir quand est-ce que
fin octobre,
ça sera.
Fin octobre, okay. Début novembre, ce sera sorti, promis.
Donc à Halloween, pensez aux citrouilles, pensez aussi à Orchant. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission. Merci. Retrouvez toute l'émission en podcast dès ce week-end. À très bientôt sur Radio Galère 88.4.